Je vais présenter les participants de ce matin, les intervenants. Donc, Stéphane Allaire, professeur en pratique éducative, puis responsable de l'équipe FRQSC sur le partenariat recherche-pratique en éducation de l'UQAC. Il y a Patrick Giroux, qui est professeur également au département des sciences de l'éducation de l'UQAC et membre du laboratoire de formation et de recherche sur la littératie numérique. Bonjour, Patrick. Pascal Thériault, professeur en apprentissage de la lecture et de l'écriture également de l'UQAC au département des sciences de l'éducation. Bonjour Pascal, bienvenue. Il y a Monsieur Rahul Kamkal, docteur en technologie éducative de l'Université Laval, consultant pédagogique au récit et postdoctorant avec nous à l'équipe FRQSC de l'UQAC. Les intervenants aujourd'hui sont Lise Gremillon, et François Gremillon, toutes les deux professeurs dans les HEP Béjune et de Vaud, en Suisse, à Lausanne, et également des intervenants lors des deux éditions de l'Université d'été 2016 et 2018 sur les inégalités sociales. Donc, bienvenue tout le monde. Donc, aujourd'hui, la discussion va tourner autour de qu'est-ce que le confinement nous apprend ou nous pose comme question ou réflexion sur la formation initiale des enseignants. À vous la parole.
Ouais, je pense qu'il y a un premier apprentissage, il y a une première chose qu'on remarque que très, très facilement, c'est qu'il y a un grand nombre d'enseignants ici au Québec qui n'étaient pas prêts à faire de l'enseignement à distance, qui s'étaient peut-être pas plongés ou qui n'avaient pas été formés par rapport aux outils technologiques qui auraient pu faciliter ça, là. Puis ce retard-là, ben, il a été rendu très, très évident par très, très évident par la crise. Puis en même temps, il y a certains enseignants qui ont fait le passage très, très facilement. Donc, une grosse fracture numérique, je pense, au sein de nos enseignants, là. C'est la première chose que moi, je remarque.
Je peux peut-être faire du pouce là-dessus. Moi, ça m'a ramené un bouquin qui a été écrit au début des années 2000 par John Bransford, qui a beaucoup travaillé au niveau des sciences de l'apprentissage, puis Linda Darling-Hammond, qui est une personne assez reconnue aux États-Unis en formation des enseignants, qui ont écrit un magnifique bouquin sur la préparation des enseignants à un monde en changement. Et moi, ça me questionne, ça m'a ramené en fait à ce livre-là. Et un des facteurs qu'ils identifient dans ce bouquin-là, c'est pour amener les enseignants à s'adapter au changement, c'est toute la question de la gestion du changement, mais au plan de l'organisation. Et moi, ça me questionne vraiment beaucoup sur l'apport de la formation initiale à ce niveau-là.
Mais moi, je dirais qu'il y a quand même un côté qu'on a l'habitude de souligner chaque fois et qu'on dit aux enseignants, vous devez accompagner vos élèves à développer cela. Je parle de l'adaptation, de faciliter à s'adapter aux imprévus. Mais je me dis, cette pandémie nous a permis de nous questionner si nos futurs enseignants ont vraiment développé cette aptitude de pouvoir s'adapter à l'imprévu. Parce que Patrick tout à l'heure soulignait la fracture qu'on observait entre ces enseignants qui sont préparés et d'autres qui le sont un peu moins. Mais moi, j'ai l'impression que la fracture, elle est vraiment très grande au point où je me dis, est-ce qu'on ne devrait pas peut-être penser, est-ce qu'il n'y a pas déjà, il n'y avait pas déjà une inégalité au niveau de la formation, même à la base, pour qu'on ait une si grande fracture? Et de deux, est-ce qu'on ne devrait pas s'interroger sur la pertinence de mettre l'accent aussi sur le côté de l'adaptation pour faciliter, pour aider les enseignants à s'adapter?
Moi, ça m'a amené, la situation qu'on vit actuellement, ça m'a amené à réfléchir à quatre aspects. D'abord, à mes propres dispositifs pédagogiques, à ma façon de travailler avec les étudiants. Pour moi, c'est clair que même si on revient, si on continue pas à l'automne dans une formation à distance, pour moi, c'est clair que je vais revoir mes façons de travailler avec les étudiants. Donc ça, pour moi, c'est la première chose à laquelle j'ai réfléchi. La seconde, c'est, ben, comme Patrick, Raoul et Stéphane l'ont souligné, c'est l'utilisation des technologies par nos étudiants. Donc, voir comment être plus davantage sensible à la manière dont les étudiants peuvent utiliser les technologies dans leur façon, dans leur stage, dans leur contexte, quand ils planifient des situations d'enseignement-apprentissage. Une autre chose à laquelle j'ai réfléchi aussi, c'est l'accessibilité, en tout cas du moins chez nous, à l'UQAM, qui a du matériel pédagogique numérique. Comme par exemple, moi j'ai été confrontée dans le cadre du cours Exploitation pédagogique de la littérature jeunesse au fait qu'on n'avait pas de matériel de littérature jeunesse, on n'avait pas de livre jeunesse accessible dans des formats numériques. On avait commencé à travailler un peu cet aspect-là, mais moi je pense que ne serait-ce que pour travailler dans le cadre des cours, mais aussi pour amener les étudiants à travailler avec cette littérature-là, ce format de littérature-là. Donc ça, c'est un autre élément sur lequel j'ai réfléchi. Puis le dernier, c'est la relation avec les parents. Donc, dans le cadre de mon cours qui porte sur l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, je pense que je veux mettre davantage l'accent sur l'importance d'impliquer les parents davantage dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Pas avec l'intention de faire des parents des spécialistes de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, mais ne serait-ce que de les sensibiliser davantage à la place de la lecture dans le quotidien. Comme par exemple, quand ils font une recette avec les enfants, ben ils travaillent la lecture, la compréhension en lecture, ils travaillent des stratégies, ils font aussi des mathématiques. Les sensibiliser davantage au fait de manipuler adéquatement un livre, par exemple, faire des interventions avant, pendant, après, mais tout ça d'une façon plus générale, sans nécessairement, comme je disais tantôt, en faire des spécialistes, mais être davantage en contact, en relation avec les parents, pas juste pour communiquer avec eux quand ça va mal, mais avoir davantage un lien positif et constructif, notamment en ce qui me concerne par rapport à la lecture et à l'écriture. Donc, pour moi, ce sont les quatre éléments de réflexion là, que ça a suscité chez moi la situation qu'on vit en ce moment.
Pour moi, ça va. C'est oui une question d'appropriation ou de mésappropriation du numérique, mais c'est plus que ça. T'sais, quand je regarde ce qui est en train de se passer avec la réouverture des écoles, puis que je regarde à certains endroits à quel point on essaie de reproduire dans le contexte très, très particulier le rythme scolaire que moi, j'ai envie d'appeler chaîne de montage, tu sais. On s'en va dans un cours pendant une heure. Tout le monde est là. On chemine vers un deuxième cours. Là, je parle du secondaire, mais même au primaire. Hein, c'est très, très orchestré par matière. Moi, tu sais, c'est oui le numérique, mais c'est vraiment, j'en fais vraiment une question de gestion du changement. Puis, tu sais, moi, je suis tout à fait fasciné de voir à quel point on essaie de reproduire le modèle classique plutôt que de se dire, bien, écoutez, là, les gens sont à la maison. Est-ce qu'on peut s'assurer qu'ils ont le nécessaire pour être branchés? Puis après, comment peut-on articuler ce nouveau contexte avec les outils dont on dispose, mais avec une créativité qui nous amènerait à faire les choses un peu différemment? Et c'est pour ça que, comme je le disais tantôt, moi, ça me ramène vraiment, tu sais, au bouquin de Bransford puis Darling Hammond, tu sais, qui mentionne que dans les programmes de formation des maîtres, on se concentre trop peu à développer chez les étudiants des façons de faire qui vont leur permettre de contribuer à la gestion du changement d'une organisation. On les fait réfléchir sur leurs pratiques en vase clos, tu sais, mais dans un contexte plus global, je pense qu'on a quelque chose là, à bonifier par rapport à ça.
Je vous écoute, puis je pense qu'il y a un troisième niveau qu'il faut ajouter à la réflexion. Moi, j'avais introduit le niveau des enseignants. Stéphane a continué. Raoul et Pascal ont poussé sur le niveau de la formation des enseignants. Mais la difficulté à changer, puis la fracture, elle est aussi au niveau du ministère, elle est aussi au niveau des commissions scolaires, elle est aussi au niveau de la gestion. C'est des bateaux qui bougent tellement pas vite. Là. Puis là, la crise, on a pu le voir, là, c'est tellement évident que c'est trop, il y a trop d'administration, puis c'est trop lourd, ils ne sont pas capables de gérer le changement. Là, ça va devenir peut-être un mot important, être capable de gérer le changement. Je pense que Stéphane, tu devrais faire imprimer le livre puis le redistribuer. Donc, je pense que dans la réflexion, il faut garder ça en tête. Là, on peut faire des changements à l'université, on peut travailler au niveau des enseignants, mais il va y avoir un gros travail à faire au niveau du ministère puis des organismes qui chapeautent l'éducation, là, parce qu'ils n'étaient pas prêts, là. On était clairement pas prêts à voir venir ça, malgré qu'on ait un beau plan d'action numérique, malgré qu'on ait un bureau de mise en œuvre du plan numérique, malgré qu'on ait plein de projets puis qu'on ait investi beaucoup, beaucoup d'argent dans les dernières années. Je pense qu'il manquait une vision globale. On avait, Stéphane vient de le dire, on a une vision de la classe, hein, qui est canné, puis qu'on reproduit, puis même dans les laboratoires créatifs, là, il y en a deux sur quatre que j'ai visité cet hiver, on prenait ce qui se faisait en classe, puis on l'amenait au laboratoire créatif. Ça n'a pas de sens. Mais en écoutant Raoul, donc ma première intervention, il y a un troisième niveau qu'il ne faut pas oublier, mais une autre chose, puis c'est quelque part entre Pascal, puis entre ce que Pascal et Raoul ont dit. J'observe ce qui se passe, puis je me dis que les changements qu'on a proposés à nos programmes par rapport à l'intégration des TIC, qui visent à en faire un peu plus, puis à ce que moi je travaille avec les collègues, je collabore avec les collègues, par exemple à la prochaine session, à l'automne, là, je suis supposé travailler avec notre nouveau professeur spécialiste en français, pour vraiment apporter plus de technologie dans les cours de didactique, et vraiment apporter plus de technologie. Pas que ça soit une matière, les technologies, puis pour qu'ils en parlent plus largement, je pense que ça va être un changement qui va être porteur, puis qui va nous aider à faire un peu, à concrétiser un peu ce que Pascal proposait. Puis ça va nous aider aussi à mieux préparer les enseignants, là. Puis Raoul, je suis pas sûr si la diversité, moi, c'est si négatif. C'est l'importance de la variance, peut-être, mais je ne voudrais pas que tous les enseignants soient pareils. Qu'il y en ait des plus techno, des moins techno, ça ne me dérange pas, parce qu'il y en a qui vont être plus lecture, puis d'autres qui vont être plus artistiques. Mais là, il y a tellement de variance, là, il y a tellement de grosses différences que c'est peut-être trop, là.
Justement, moi, j'ai l'impression que la pandémie ou le confinement a ouvert une porte. Une porte qui pouvait nous mener vers un changement. Et ouais. Que ce que nous sommes en train de faire actuellement, c'est de se battre pour refermer cette porte rapidement, pour continuer notre quotidien. J'ai vraiment l'impression que dans 10 mois, ou dans 1 an, ou dans 2 ans, l'école sera comme elle a toujours été. Et je crains qu'on se retrouve là dans 2 ans, avoir fait l'école, c'est-à-dire en 2022, d'avoir une école comme celle qu'on avait en 2018, 2019, 2020. Pourtant, on avait l'opportunité de se dire comment faire pour profiter de ce qui se passe actuellement, pour améliorer ce qu'on faisait déjà. L'autre côté aussi, je me dis, il y a 3 choses que je suis en train d'observer qui peut-être pourraient nous amener aussi à nous questionner sur la place de l'espace physique. On le voit déjà dans les laboratoires créatifs, mais avant la pandémie, les classes ressemblaient à une chose. On sait à peu près à quoi elles ressemblaient. On connaît comment les chaises étaient disposées, tous les bancs et puis le prof. Pendant la pandémie, l'école se faisait à la maison pour certains. C'est un autre environnement physique. Et après la pandémie actuellement, on est en train de réorganiser encore l'espace physique. Mais jusqu'à là, je me dis, est-ce que c'est pas une occasion de se questionner sur la place de l'espace physique dans la formation de nos enseignants? Parce que là, ils vont vivre 3 espaces en moins de 4 mois ou en moins de 3 mois, 3 espaces physiques différents. Pareil pour les élèves. Comment est-ce qu'on peut faire pour aller améliorer cet élément-là qui est non négligeable dans l'enseignement ou dans l'apprentissage d'un individu? C'est une question à laquelle je n'ai pas encore beaucoup de réponses, mais je me questionne là-dessus. Donc, je suis tout à fait aussi d'accord avec Patrick qui souligne le fait que la variance est importante. Oui, mais je me dis, même dans la variance, il y a quand même un minimum qu'on voudrait avoir. Et c'est plus ce minimum-là qui m'inquiète, en fait. Que je me dis, oui, je suis d'accord qu'on ait des moyens techno, mais peut-être un minimum, on pourrait se questionner sur notre minimum aussi.
Moi, il y a une autre réflexion que ça suscite chez moi. Ça m'interpelle un peu dans mon rôle de justement formateur d'enseignant. C'est une réflexion en lien avec l'identité professionnelle. C'est quoi être un enseignant? Puis quand je vois que les premières mesures qui ont été mises en place, c'était de fournir des sites web, des liens vers des sites web, puis des trousses. Je me dis, un enseignant, c'est quoi? Est-ce que c'est un penseur culturel? Puis pour reprendre l'expression récente de Philippe Mérieux, un générateur d'interaction puis de sens collectif? ou si c'est uniquement un distributeur d'outils puis de matériel. Moi, ça vient vraiment me chercher cet élément-là, puis je me dis, est-ce qu'on travaille suffisamment ces éléments-là pendant le cursus? Puis tu sais, jusqu'à quel point on met suffisamment en valeur justement tout le rôle de médiation, puis tout le rôle de générateur d'interaction qui doit être joué, je pense, par les enseignants.
Mais c'est vrai quand même qu'en observant ce qui s'est passé ces dernières semaines, je suis d'accord avec toi, Stéphane. Lorsque tu nous parles, tu parles des outils. Dans le cas de la province de Québec, on a vu vraiment, il y a des sites qui ont été mis en place. Il y a beaucoup d'outils qui ont été mis en place. Juste peut-être, tu vas me dire si j'ai mal saisi. Il n'est pas question ici de dire de remettre en question la pertinence de ces outils, mais c'est vraiment notre approche. C'est vraiment notre approche. Un moment, je me suis dit, est-ce qu'on ne cherche pas à remplacer l'enseignant? Un moment, je me suis dit, est-ce qu'on n'est pas en train aussi de dévaloriser le rôle de l'enseignant? Un moment, je me suis dit, mais où est l'enseignant? Puis j'ai vraiment beaucoup aimé, je crois, dans une de tes interventions, Stéphane, je pense que c'était sur un réseau social où tu te questionnais, on donne la parole à tout le monde, mais quand est-ce qu'on donnera la parole à l'enseignant? Dans un contexte comme celui-ci, je pense qu'il n'est pas question pour nous de supprimer certains acteurs, encore plus les acteurs, pour moi, que je trouve fondamentaux dans le processus d'enseignement-apprentissage. Il n'est pas question pour nous, mais il est question pour nous de les accompagner à faire face à ce changement, parce que ce changement, il est inédit pour tout le monde, même pour l'enseignant. Oui, on peut paniquer et prendre des décisions, mais il ne faut pas qu'on oublie le contact physique, la proximité entre l'enseignant et l'apprenant. Même si on passe à la formation à distance, je pense que ça sera un enjeu. L'enjeu de travailler la proximité entre l'enseignant et l'apprenant dans la formation à distance. Il y a quand même beaucoup de chercheurs qui ont travaillé là-dessus, je pense comme ça, à Annie Chézégou, qui a sorti un livre il y a quelques mois, je crois que ça doit faire peut-être 6 ou 7 mois, sur la proximité, la relation de proximité. Et je trouve que il y a beaucoup de choses qu'on peut aller chercher là pour améliorer notre approche, en espérant, on ne le souhaite pas, que si une prochaine pandémie arriverait, on réagirait de la meilleure façon.
Ouais. Bien d'accord.
Il y a toute une partie de cette réflexion-là où, moi, dans mes mots, je la résume, des enseignants, des professionnels, des penseurs réflexifs où... j'ai pas lu le texte de Mérieux, là, mais pour moi, c'est la différence entre un professionnel et peut-être un technicien de l'éducation. Si on amène ça, si on regarde historiquement au cours des 20 dernières années au Québec, les gouvernements qu'on a eus successivement ont fait beaucoup, beaucoup de travail de... Je vais appeler ça un travail de sape. J'ai l'impression que les décisions politiques ont beaucoup contribué à faire qu'on obligeait les enseignants à fonctionner de telle façon, c'est tel volume, voici ce que vous devez faire, vous n'êtes pas responsable de l'évaluation, ça vous allez l'évaluer, mais de telle façon. On leur a enlevé du... Tu sais, on les a beaucoup, beaucoup... On les a pris par la main, puis on les a guidés, puis à d'autres fois, on les a tapés sur les doigts, faites ce qu'on vous dit, là. Puis je pense que là, on se rend compte que c'était peut-être une mauvaise idée, parce qu'on leur a enlevé de l'initiative. Moi aussi, j'ai le sentiment, à quelque part... On les a un peu empêchés de prendre des initiatives puis d'être créatifs au cours des dernières années, alors que là, dans la crise, on aurait eu beaucoup, beaucoup besoin d'enseignants qui prennent plus d'initiatives puis qui sont créatifs puis qui trouvent des nouveaux moyens puis qui essayent des choses puis qui prennent des risques. Si je ramène ça à moi, je vais avoir des nouveaux cours en techno. Ben, une des conséquences de la pandémie, je pense, pour moi, le mot-clé, les mots-clés, ça va être créativité. Je vais beaucoup mettre d'emphase sur soyez imaginatifs, prenez des risques, essayez avec les technos. Puis je pense que c'est important qu'ils développent ça, là.
Moi, je voudrais ajouter à ça. On parlait, Stéphane, tantôt, tu parlais de les amener à gérer le changement. Mais puis Raoul, tu disais aussi que tu avais l'impression qu'on cherchait, une fois le confinement terminé, à reproduire, à revenir dans le même modèle de l'école. Mais je pense qu'on va devoir se questionner aussi sur nous à l'université. Quelle place on va faire au changement aussi dans notre façon de former les étudiants? Est-ce qu'on va tenter, nous aussi, de reproduire ce qu'on faisait avant la pandémie ou on va plutôt aller vers des nouvelles façons de faire? On dit qu'au primaire et au secondaire, on va d'un cours à l'autre. Mais je m'excuse, mais chez nous aussi, là, c'est ce qui se passe dans la formation initiale. On va d'un cours à l'autre, un didactique de un didactique de l'autre, puis il y a très peu, on fait très peu de projets communs à l'intérieur qui mettent à profit plus qu'un cours. Nous aussi, on est dans une formule très morcelée. Alors, oui, on parle de changement dans le milieu enseignant, mais il faudra d'abord se questionner, nous, qu'est-ce qu'on est prêt à faire comme changement? Si on veut accompagner les étudiants dans le changement, il faudra d'abord que nous-mêmes, on prenne position puis qu'on voit ce qu'on veut changer.
Ah, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Puis, pour faire du pouce là-dessus, tu sais, quand je regarde un peu l'élaboration des plans de continuité pédagogique par les milieux scolaires, tu sais, je me dis, est-ce qu'il n'y aurait pas eu une belle occasion là, pour lever la main puis dire, regardez, là, on a des étudiants là, tu sais, qui sont en train de terminer leur trimestre, là, mais tu sais, on aurait pu saisir l'occasion d'établir un lien beaucoup plus proximal justement avec les milieux scolaires, d'articuler ça dans des cours, tu sais, qu'on aurait mis à jour, puis les étudiants auraient pu faire une contribution, non seulement à l'élaboration, mais au déploiement de ces plans-là. Mais tu sais, moi, je trouve que ça montre à quel point il reste du chemin à faire, tu sais, dans l'articulation des cours universitaires, des stages, puis de la dynamique d'insertion professionnelle. Tu sais, c'est encore assez cloisonné. Tu sais. Et je me dis, il me semble qu'on a raté une belle occasion là, de se rapprocher puis de se dire, bien, écoutez, là, nous, en enseignement primaire, en enseignement secondaire, on a je ne sais pas combien de centaines d'étudiants présentement. Vous avez besoin de gens pour assurer une continuité pédagogique. Est-ce qu'on peut réfléchir à quelque chose? Tu sais? Mais non, tu sais, on n'est pas rendu là parce qu'effectivement, il y a un cloisonnement à l'intérieur des milieux scolaires, à l'intérieur de l'université, puis il y en a un encore, malgré tous les liens positifs qu'on a avec les milieux scolaires. Il demeure quand même un cloisonnement là, entre les cours, les stages, puis la réalité du terrain. Puis je trouve que la situation actuelle le montre là, quand même.
Moi, je suis d'accord avec tous les éléments qui ont précédé, mais je me questionne sur le changement. On parle tantôt de changement depuis là. Il faut changer. On est tous d'accord, il faut changer. Comment faut-il changer? Est-ce qu'il faudrait un changement qui nous sera imposé par le haut? Est-ce qu'il faudrait un changement qui sera fait milieu par milieu? Est-ce qu'il faudrait un changement contextualisé? Comment faut-il changer? Parce que je me dis, même si nous sommes tous d'accord qu'il faut changer, et qu'on venait à amorcer ce changement d'une façon pas très objective ou bien d'une façon, pas de la meilleure façon possible, on risque d'être confronté encore à ça demain. Alors, je pense qu'il est important qu'on réfléchisse aussi sur comment est-ce qu'on va changer. Oui, il y aura un changement au niveau du supérieur, de la formation initiale, même de la formation continue, d'ailleurs, il le faut. Il faudrait un changement au niveau du ministère, je suis d'accord. Mais comment est-ce qu'on peut faire pour arrêter ces différents changements? Parce que moi, je pense que le changement, même si on vit les mêmes choses, du moins si on vit la même pandémie, mais elle ne s'est pas répercutée de la même façon sur chacun d'entre nous. Ce qui veut aussi dire sur chaque milieu. Donc, tel que nous l'avons vécu ici, par exemple, à Québec, ceux qui sont à l'Islay ou à Montréal ou à Gatineau, ils vivent quelque chose de différent aussi. Donc, peut-être ce changement devrait tenir compte du contexte, devrait tenir compte de la culture de chaque milieu. Quand je parle de culture ici, je ne parle pas juste de la culture liée au peuple, mais aussi même de la culture liée à l'organisation. Donc, je me dis, il y a des choses sûrement à aller creuser pour travailler le processus de changement. Mais je suis conscient que ça ne va pas se faire par une baguette magique. Ça va prendre du temps. Et ce temps, nous devons nous le donner. Nous devons nous l'accorder. Et ça doit aussi prendre des erreurs. Et ça aussi, on a le droit de faire ces erreurs-là. Et je pense que ça fait partie des choses qu'on va travailler ensemble aussi avec nos étudiants.
Moi, je sais que je ne suis pas supposée parler parce que je suis une animatrice, là, mais comme c'est une discussion sans filtre, je ne peux pas m'empêcher. Là, je réalise qu'il n'y a pas de parents non plus dans notre discussion. Fait que là, je vais mettre mon chapeau de parent qui vit au quotidien l'enseignement à distance au secondaire, puis je rencontre, c'est drôle, c'est la collaboration, tantôt Pascal en parlait, la collaboration école-famille. Moi, j'ai l'impression de connaître plus les enseignants maintenant que je les connaissais avant. Et moi, ce qui me fait un peu peur présentement, puis là, on parle de changement, puis est-ce qu'on veut que l'école se fasse comme elle se faisait avant? J'ai l'impression que si on va vers un changement, ce qui risque de s'en venir si on continue vers... là, j'extrapole par rapport à ce que je vois. Mais moi, par exemple, ma fille n'a pas de difficulté. Donc, apprend ses trucs. Ça y prend moitié moins de temps que quand elle va à l'école pour faire ses leçons. Parce que là, elle dit « personne ne me dérange ». Elle le fait à l'heure qui lui tente. Et comme c'est une ado, ben, elle ne fait pas ça le matin. Hein? Puis, après ça, elle a tout le reste de sa journée. Donc, je me dis, si dans la formation à distance, on a tous des enseignants qui sont super bons en technologie, qui peuvent faire de la formation à distance au secondaire, qui va rester dans nos écoles? C'est fort probablement les écoles, les enfants qui ont des difficultés, qui vont y aller plus pour socialiser ou pour, en tout cas. Donc, ça me questionne aussi sur comment on va voir l'école, pourquoi on voit l'école, puis qu'est-ce que c'est l'apprentissage. Parce que même quand on regarde, quand je regarde la trousse, puis ce qui est proposé, c'est beaucoup des liens avec Internet, sur Internet, puis, etc. Donc, moi, là, ça me questionne vraiment sur tout ce qui est inclusion scolaire, la pertinence aussi, comme on parlait tantôt, des différents lieux d'apprentissage. Donc, ça me questionne vraiment sur est-ce qu'il va y avoir... S'il y a de l'enseignement à distance qui est mis pour répondre à certains élèves, bien, ça risque d'être pour les élèves, encore une fois, les plus favorisés, puis... créer encore plus d'inégalités entre les milieux.
En fait, moi, je pense que ça va nous amener à cheminer vers une dynamique un peu plus hybride, tu sais, où les élèves vont en alternance à l'école, mais pendant que certains sont à l'école, d'autres sont à la maison. Et là, effectivement, l'enjeu que ça pose pour les élèves en difficulté, c'est quelle est la nature du soutien qui leur sera offert, sachant que, en temps normal, entre guillemets, on souhaiterait qu'il y en ait davantage. Et là, bien, effectivement, il y a un danger que l'écart se creuse. Sauf qu'il y a quand même des opportunités là-dedans, parce que en envoyant moins d'élèves à la fois dans les écoles, bien, à quelque part, c'est un ratio enseignant-élève qui change aussi. Fait que ça, je pense qu'il y a une réflexion à faire autour de ça. Puis, l'autre élément, moi, je pense que ça va nous amener, en tout cas, j'espère que ça va nous amener à revoir. Je faisais référence un peu tantôt, tu sais, dans les rythmes scolaires. Tu sais, le rythme scolaire est organisé pour que les gens fassent du temps. Je m'en vais m'asseoir une heure et quart. Après ça, je change de local ou je change de matière. Je m'assois encore une heure et quart, et je fais mon temps. Pourquoi on ne penserait pas plutôt en termes de tu sais, dans une dynamique un peu plus projet, c'est-à-dire voici quelque chose à réaliser et maintenant, comment le temps peut-il s'organiser? Tu sais, il peut s'organiser de différentes façons. Tu sais. Il y a des élèves qui peuvent aller à l'école quelques jours par semaine. Il y en a d'autres qui peuvent rester en ligne, avoir du soutien personnalisé, je ne sais pas moi, de la part de nos étudiants à futurs enseignants. Tu sais, moi, je pense que c'est ces modèles-là qu'on doit faire un peu éclater pour sortir de la chaîne de montage.
Moi, je voudrais réagir à ça. Est-ce que, bien que je trouve que c'est tout à fait intéressant et pertinent, mais c'est pas un peu... idéaliste de penser que quand tout le monde va retourner sur le marché du travail, de penser que des enfants pourront fréquenter l'école en alternance puis rester à la maison. Je suis pas certaine. Là, ça peut aller parce que on est dans un contexte où il y a encore beaucoup de parents à la maison, mais est-ce que ce genre de modèle-là peut être viable dans la mesure où la vie va reprendre son cours et les gens vont retourner travailler dans leur lieu habituel?
C'est clair qu'au primaire, il y a une difficulté qui est particulière.
Mais il y a déjà, à quelque part, il y a déjà des familles qui font pour que ça marche. qui font que c'est possible. Tu sais, à un moment donné, c'est une décision qu'il faut que tu prennes comme parent, là. Mais je veux revenir sur ce que Catherine a dit. On peut voir cette situation-là puis dire que ça va exacerber des inégalités. Mais on peut aussi voir cette situation-là puis dire pour moi, c'est une bonne occasion de reconnaître l'hétérogénéité de nos apprenants. Tu nous as donné l'exemple de ta fille, puis moi, je vois une de mes filles là, qui est à l'université, puis qui fait ses 5-6 cours, puis qui travaille 35 heures en même temps, puis pour elle, ça ne l'empêche pas d'avoir une vie sociale, de faire du sport. Pour elle, c'est normal, puis c'est correct. Puis il y a d'autres enfants qui ont besoin de plus. Puis il y a des enfants qui réussissent très, très bien dans une formule à distance, puis c'est vraiment pas pour tout le monde. Mais je me rappelle d'avoir lu un article où il parlait du 7 ou 8 % des Américains qui ont choisi de faire l'école à la maison. Puis les chercheurs avaient remarqué que ces étudiants-là réussissaient mieux puis plus vite que ceux qui allaient à l'école, dans la plupart des cas. Mais peut-être que dans les changements qu'il faut faire, puis c'est les choses que, tu sais, on a parlé de beaucoup de changements, bien, suite à la pandémie, là, on vient de voir, il y a des jeunes là, qui n'auront pas pris de retard cet hiver, même si on leur a offert peu de soutien, parce que, de la part de l'école, mais les parents sont entrés en compte. C'est peut-être un moment de réfléchir. On avait un modèle d'école, mais il n'y avait pas un modèle d'apprenant, puis il n'y avait pas un modèle de famille. Moi, je pense, chez nous, ça aurait été possible parce qu'on avait pris la décision que ma femme restait à la maison tant que les filles allaient à l'école. C'est une décision qu'on a prise. Une décision financière, une décision d'organisation, etc. Mais pour nous, c'était important que les filles puissent sortir de l'école. C'était important que, quand elles étaient malades, elles puissent rester à la maison. Chez nous, ça aurait été pas, pour moi, c'était important puis ça aurait été possible. Dans d'autres familles, bon, mais il y a aussi, pour nous, c'est impossible parce que j'ai un bon emploi. Dans d'autres familles, ça serait peut-être plus dur. Le prochain ou les changements qu'il faut qu'on fasse, je pense qu'il faut qu'ils permettent, sans créer d'inégalités, de mieux prendre en compte l'hétérogénéité de nos apprenants, puis des familles, puis des contextes. Dans ton exemple, tu as fait ressortir les inégalités. Moi, je voyais le positif. Je voyais, wow, on a un enfant là qu'on pourrait y donner des cours d'astronomie en plus. On pourrait, tu sais, on aurait pu enrichir son cursus parce qu'elle a généré du temps, puis on aurait pu lui permettre de développer des intérêts. Tu sais, si c'était toujours comme ça, on pourrait pousser plus loin ses intérêts en, je sais pas, là, je connais pas ta fille, en danse, en musique, en art, peu importe. Tu sais, pour moi, je vois une opportunité. Fait que si on veut, c'est Raoul qui disait, faut pas, est-ce qu'il faut retourner à l'école? On ne veut pas retourner à l'école de 2018. Non. Où on voudrait s'en aller? Bien, moi, je pense qu'un bon modèle après la pandémie, ce serait un modèle qui permettrait de prendre en compte ces inégalités-là puis de les combler. Mais moi, j'aime mieux le voir du côté positif, prendre en compte l'hétérogénéité puis offrir des solutions qui s'adaptent à différents formats de famille puis différents formats d'apprenants.
Exact, moi je partage tout à fait. C'est vrai que je me questionne si on aura autant de formats d'école que de formats de famille, mais au moins on en aura plusieurs, ça c'est sûr. Et je pense que vraiment, parfois où on voit la crainte, il faut plutôt se demander qu'est-ce qu'il y a de positif. Comme l'a dit Patrick, moi un enfant qui fait son cours en 2-3 heures, je me questionne sur le nombre de minutes que cet enfant passe à s'ennuyer quand elle est dans une salle de classe. Je me questionne. Je me questionne sur tout le stress que ça engendre dans son cerveau lorsqu'elle est obligée d'écouter un professeur qui lui dit ce qu'elle sait déjà. Je me demande comment ça se passe en elle lorsqu'elle est obligée de se dire « Mais il a dit ça tantôt, cet enseignant, pourquoi il répète ?» Je me demande si elle ne souffre pas plus à l'école qu'à la maison. Si elle ne souffre pas plus dans ce modèle de l'école actuelle, je veux dire avant pandémie, que celui qu'elle a vécu pendant la pandémie. Et s'il y a un enfant comme ça, ça veut dire qu'il y en a au moins plusieurs dans différentes familles. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire, il faut aller les sauver et il faut trouver une école qui va répondre aussi à leurs besoins. De l'autre côté, on parle d'autonomie tout le temps, mais à l'école, on te fait ça. Après ça, tu fais ça, après ça, tu fais ça. Mais on veut quand même qu'à la fin, tu deviennes autonome. Est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal? Alors, est-ce que là, on n'a pas l'opportunité d'amener chaque enfant à devenir autonome? il n'y a pas un modèle d'autonomie, mais à devenir autonome et apprendre par lui-même et à son rythme, comme le disait Stéphane. Chacun a son rythme. On a une opportunité à saisir. Est-ce que nous allons la saisir? Je me questionne, puis je n'ai pas de réponse. Dans 5 ans, on verra.
Moi, par rapport à l'autonomie, je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis quand je regarde la nature de certains travaux qu'on demande à nos propres étudiants à l'université, je pense qu'effectivement, comme Pascal l'a mentionné tantôt, on a peut-être intérêt à se regarder d'abord. Parce que parfois, ça ressemble plus à des commandes très, très, très précises, à du pré-marchage de travaux qu'à un travail un peu plus de construction, de réflexion sur le fond à partir de ce qu'on peut appeler des problèmes mal définis. Tu sais. Donc, souvent, je pense que les situations qu'on soumet à nos étudiants sont très, très camées, pour reprendre l'expression de Patrick tantôt.
Et si je peux encore me permettre, en tant qu'animatrice, ce que moi je vois aussi, c'est, tu sais, à l'UQAC, je dirais que mes enfants doivent fréquenter les écoles du Saguenay, puis il y a quand même une homogénéité dans la formation qu'ils ont reçue. Mais maintenant, ils sont à Montréal et il y a une très grande diversité, il y a une très grande pénurie d'enseignants. Donc, il y a des enseignants qui n'ont pas encore leur diplôme, qui viennent enseigner. Donc, ça, c'est quelque chose aussi dans la formation initiale auquel il faut réfléchir. Puis, ça fait une très grande, en tout cas, homogénéité dans la qualité de l'enseignement qui est offert à nos jeunes. Donc, déjà, ça, c'est quelque chose sur lequel je crois qu'il faut... Si on veut offrir, puis je trouve ça très intéressant ton commentaire, Patrick, sur oui, c'est une très grande force, l'hétérogénéité, mais est-ce que cette hétérogénéité-là entre nos enseignants est une force présentement quand je vois ce qui est offert, la différence de ce qui est offert présentement comme cours à distance à ma fille, d'un enseignant à l'autre, j'imagine qu'en classe, c'est la même chose. Il y a une très grande hétérogénéité dans les compétences des enseignants présentement, auxquelles il faut réfléchir aussi dans la formation initiale.